sur Radio B, Alain Goudard. Bonjour et bienvenue à tous dans Résonance. Résonance, l'émission radiophonique de Résonance Contemporaine, pôle ressources départementales et régionales culture et handicap, musique contemporaine. Résonance, une nouvelle émission pour vous et avec vous, pour tendre l'oreille vers ce qui ne s'entend pas, regarder où il ne faut pas ou ce qui ne se voit pas. Notre invité pour cette nouvelle émission, c'est le label discographique italien Emma Vinci, établi en Toscane à Fibiana, tout proche d'Empoli. Dirigé par Giuseppe Scali et secondé par Marco Cardone, le label Emma Vinci s'impose petit à petit depuis quelques années comme l'un des défenseurs les plus marquants de la création musicale contemporaine italienne. D'ailleurs, la Société italienne des auteurs et des éditeurs, en quelque sorte l'homologue de la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en France, a décidé de soutenir plus fortement l'action d'Emma Vinci pour son action justement en faveur de la diffusion de la création musicale contemporaine. Depuis quelques mois, Résonance Contemporaine et la présente émission ont pour sa part signé un accord de coopération phonographique avec Emma Vinci. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux de vous faire entendre et découvrir dans cette présente émission quelques-unes des dernières réalisations discographiques d'Emma Vinci. Comme vous le savez, chers auditeurs, notre émission Résonance est une invitation permanente à écouter, à sentir comment ça va et vient, ça s'enroule et se déroule, sonne et dissonne, bat et débat. Un moment partagé pour comprendre comment ça se sent, sentir comment ça se comprend. Comprendre, pour ne pas dire pas savoir, écrit le philosophe Jean-Luc Nancy, nous ne savons pas, mais nous comprenons. Nous prenons avec, poursuit-il. Thank you. résonance contemporaine sur Radio B, découvrir la musique contemporaine italienne avec le label discographique Emma Vinci. Donc, première rencontre dans notre voyage à travers la création musicale d'aujourd'hui en Italie avec le compositeur Daniele Lombard, dont nous venons d'entendre Mythologie 1, comme Calma and Pietà pour piano forte, composé en 1996 par Daniele Lombardi et interprété par le compositeur lui-même au piano. Daniele Lombardi est reconnu de manière internationale par son répertoire unique. Il a fait beaucoup de travail sur la musique de l'avant-garde historique du début du XXe, se produisant dans la première représentation moderne d'un grand nombre de compositeurs et de compositions musicales futurisme italien et russe. Daniele Lombardi a toujours eu un grand intérêt pour l'art idée multimédia. Sa double formation d'études musicales et visuelles l'a placé dans une dimension qui intègre le signe, le geste et le son dans une seule idée de la perception multiple de similitudes, des contrastes, des stratifications et des associations. Il a produit des dessins, peintures, infographies et vidéos, qui sont le résultat de transcodeurs en images d'une pensée musicale, comme un affichage des énergies qui sont en amont du même son potentiel de devenir. Avec la pièce de Mythologie, la première pièce que nous venons d'entendre, Mythologie 1, celle-ci a été composée en 1996. Si le cycle est pour l'auteur une sorte de grande sonate, son premier mouvement que nous venons d'entendre est une sorte de sonate-sonate. Il consiste en fait à son tour 4 épisodes. Ils sont disposés selon le principe de l'alternance lent-rapide. Et cela souligne clairement comment Daniele Lombardi a inscrit sa démarche d'écriture et de composition dans une certaine continuité de la tradition de la musique classique. Ce premier épisode que nous avons écouté ensemble, Calme, Amplitude, est entièrement basé sur la répétition d'une note. Puis sont insérés des staccato et des groupes polviscolari de son. Le temps de répétition réglé, maintenant des caractères très rapides et très mollo, est brisé par d'autres figures typiques de la langue musicale de Lombardi, telles que les clusters, agglomérats sons dissonants ou arpèges courts, qui descendent vers les aigus. Alors nous allons, après Daniele Lombardi, poursuivre notre voyage et cheminons, si vous le voulez bien, en direction d'un autre univers, vers d'autres couleurs, vers une autre manière d'agencer, de tisser des relations entre les sons, les vibrations du son. Entrons dans l'imaginaire sonore et musical de l'un des compositeurs importants d'aujourd'hui, Alessandro Solbiati. Thank you. Résonance sur Radio B, découvrir la musique contemporaine italienne avec le label discographique Emma Vinci. Là, nous venons d'entendre, comme je le disais tout à l'heure, une facette de l'univers musical et l'imaginaire sonore du compositeur italien Alessandro Solbiati. Et nous venons d'entendre Il Novimento da Gesualdo per Gesualdi, une œuvre de 2004, composée pour accordéon et interprétée par Francesco Gesualdi. Alessandro Solbiati, effectivement, est né en 1956 à Busto Arsizio, en Italie. Et il est pianiste de formation et puis ensuite il étudie au Conservatoire de Milan et aussi avec Franco Donatoni, autre compositeur important de toute cette époque en Italie, justement à l'Académie de Sienne. Puis ensuite, il est devenu professeur de composition. Il enseigne successivement au Conservatoire de Bologne, de Milan, mais aussi en France, au Centre Arcante, par exemple, et dirige également des masterclass au Conservatoire supérieur de musique de Paris ou de Lyon. Sa musique aujourd'hui est interprétée dans les plus grands festivals internationaux et souvent écrite pour des effectifs réduits, Klimt par exemple pour trio à cordes et piano en 2007 et des instruments seuls, Ibi, Bonnet Fabricator pour flûte en 2009. C'est aussi un grand amateur de poésie et Alessandro Solbiati compose notamment sur des textes de Rainer Maria Rilke, Friedrich Hölderlin et Baudelaire. Et même, il s'intéresse énormément pour certains de ses ouvrages et notamment ses opéras à la littérature russe, qui trouve donc un écho très important dans ses opéras. Et on peut citer par exemple Il Caro e i Canti, un opéra écrit et créé en 2008 d'après Pouchkine, ou La Legenda, un opéra de 2011 d'après l'écriture de Dostoïevski. Donc, soulignons aussi également que nous avons eu le plaisir dans cet enregistrement de découvrir l'accordéoniste Francesco Gesualdi à Bourg-en-Bresse. Nous avons le plaisir de l'entendre le 2 avril dernier, justement, dans le cadre du concert qu'il a présenté au sein du festival Les 7 Biches Chemin de Traverse. Alors, continuons encore, si vous voulez bien, à approcher, à pénétrer dans cette atmosphère, dans l'imaginaire aussi de ce compositeur qu'est Alessandro Solbiati, pour qui la voix, j'évoquais il y a quelques instants, l'opéra, donc la place de la voix, du texte, donc pour qui la voix, dans toute sa diversité, représente le moyen d'exprimer, de chercher, d'expérimenter, d'approcher ce qu'il ressent et de dire ce qu'il souhaite nous faire partager. Que ce soit à travers des mélodies pour voix seule ou à travers ses opéras ou, comme nous allons l'entendre dans quelques instants, pour des petits ensembles vocaux et notamment un sextuor vocal. Alors écoutons, si vous voulez bien, Durissimo, une pièce écrite en 2009 pour 6 voix de femmes et piano, interprétée par les 6 voix solistes de Résonance Contemporaine avec au piano Ancuzza Aprodu et le tout placé sous la direction musicale d'Alain Goudard. Résonance sur Radio B, découvrir la musique contemporaine italienne avec le label discographique Emma Vinci. Voilà, nous cheminons aujourd'hui à travers donc l'Italie. Alors je rappelle que nous venons d'entendre, je l'avais annoncé avant cet extrait, mais Durissimo de Alessandro Solbiati pour six voix de femme et piano interprété par les six voix solistes de Résonance contemporaine avec au piano Ancuz Aprodu et sous la direction musical d'Alain Goudard. Alors, je le disais à l'instant, nous cheminons aujourd'hui à travers l'Italie à la création musicale d'aujourd'hui. Et ce chemin nous invite à ouvrir notre fenêtre, nos fenêtres, pour tendre l'oreille à l'écoute du dehors, pour aller à la rencontre de dires et de paroles. Une invitation à être peut-être plus attentif au passage qu'aux attaches, au processus de transition qu'à ceux de confrontation. C'est un parcours nomade, non linéaire, un parcours qui avance en tournant, en déployant et surtout en déplaçant les musiques, les langues, d'un espace à un autre.
Thank you.
Résonance sur Radio B, découvrir la musique contemporaine italienne avec le label discographique Emma Vinci. Il est certain que le fagotto solo et, ou le basson, si on traduit voilà le, ce nom-là de fagotto de Paolo Carlini, nous a emmené dans un sacré voyage à travers cette œuvre intitulée Gran Salto. C'est une œuvre écrite en 2013 par la compositrice italienne Alessandra Bellino. Et on a pu voir comment justement Paolo Carlini nous emmène d'abord dans la découverte de cet instrument qu'on n'a pas toujours, j'imagine, cher auditeur, vous avez entendu Pierre et le Loup, et voilà, on entend dans nos références françaises cet instrument, mais là, on a pu mesurer tout le côté sensuel aussi de ces instruments, toutes les couleurs multiples, chaleur aussi chaleureux, et la très grande maîtrise de l'ensemble des possibilités sonores de cet instrument dont a fait preuve Paolo Carlini, et puis bien sûr la manière avec laquelle Alessandra Bellino a su justement s'approprier le son, l'instrument, et essayer de maîtriser ce qu'elle avait envie de nous faire dire, de nous faire partager à travers cette œuvre pour solo, pour fagotto solo, intitulée Gran Salto. Donc je trouve une très belle œuvre. Alors quelques mots, bien évidemment, sur Alessandra Bellino, pour vous permettre de peut-être mieux la cerner. Elle a étudié le piano avec Pietro Spada, et puis elle a obtenu également un diplôme en piano et en composition avec Bruno Mazzotta, ainsi que le diplôme de perfectionnement en composition en 2002 à l'Académie nationale de Santa Cecilia avec Asio Corgi. Elle s'est spécialisée ensuite à l'Académie de musique de Shinji Hanna et en 2005 avec le grand compositeur aussi italien Ivan Fedele. En 2006, elle obtient un diplôme de technologie, également de composition musicale. Elle s'intéresse beaucoup justement aux technologies nouvelles et à tout ce travail couvre ces nouvelles technologies dans le champ musical. Et elle a suivi justement ses cours de composition musicale au conservatoire Niccolo Piccini à Bari. Elle a gagné ensuite le premier prix au premier concours international de composition pour orchestre Magistralia d'Asturias, où elle a obtenu l'exécution de son œuvre par l'orchestre symphonique Castilla y Leone, LOSPA, en Espagne. Elle a donc aussi participé à certains projets internationaux, et notamment en France, et notamment avec le magnifique travail qui est mené à Bordeaux par Proxima Centauri dans le cadre d'un projet Sonora intitulé Sonora Semat, avec lequel elle a collaboré, pour lequel elle a collaboré avec l'ensemble Dissonanzen. Et ses compositions sont régulièrement diffusées sur la radio suisse de Lugano et sur la radio nationale d'Espagne. Donc, effectivement, je vous invite, si vous le souhaitez, chers auditeurs, à approfondir, à découvrir, à oser s'aventurer sur les chemins de la musique que construit petit à petit Alessandra Bellino. Mais je vous propose de découvrir encore un autre chemin, une autre atmosphère, un autre imaginaire. Résonance sur Radio B. Découvrir la musique contemporaine italienne avec le label discographique Emma Vinci. Et là, nous venons d'entendre encore vraiment un tout autre voyage et un moment vraiment, je trouve, fabuleux dans ce qu'il a pu transmettre à travers cette pièce, cette écriture pour l'accordéon. Et il s'agit de la séquenza numéro 13, intitulée « Chanson pour accordéon », écrite en 1995, donc écrite par le compositeur Luciano Berio, un des grands compositeurs qui a marqué le XXe siècle vraiment. Luciano Berio, avec sa musique et la diversité de son œuvre, mais aussi toute la qualité, justement, de, en cherchant à rapprocher, on va en parler dans quelques instants, aussi bien la tradition, l'expérimentation, et bien sûr, vers où la tradition peut ouvrir d'autres voies d'écriture. Et cette séquenza numéro 13, chanson pour accordéon, est magnifiquement servie par l'accordéoniste italien Claudio Giacomucci, qui là aussi nous emmène avec une qualité de doigté sonore vraiment merveilleuse. En tout cas, j'espère que cette séquenza vous aura permis d'ouvrir une oreille, d'ouvrir une fenêtre, je l'évoquais tout à l'heure, sur un peu le paysage musical de Luciano Berio. Alors, chaque séquenza, pour Berio, était avant tout une rencontre humaine entre un virtuose et un compositeur. Tous deux aussi curieux l'un que l'autre et avides d'expériences nouvelles. Composé, écrit Luciano Berio, pour un virtuose digne de ce nom, n'est aujourd'hui valable que pour consacrer un accord particulier entre le compositeur et l'interprète, et aussi comme témoignage d'un rapport humain. Fin de citation. Luciano Berio dresse alors le portrait à la fois d'un instrument et d'un instrumentiste, associant les techniques traditionnelles aux modes de jeu les plus avant-gardistes, jusqu'à en créer de nouveaux, par exemple en cherchant à rendre polyphonique chaque instrument monophonique. Aussi, l'écriture se fait à deux, le compositeur étant redevable des possibilités et capacités de l'interprète, mais en lui demandant également de mettre en jeu la puissance scénique du geste instrumental jusqu'à une certaine théâtralité, écrite ou non sur la partition. Aujourd'hui incontournable du répertoire virtuose de chaque instrument, les séquenze ouvrent 50 ans de création contemporaine, témoin des divers langages qu'a pu adopter Luciano Berio au cours de sa longue carrière. Séquenza 13, chanson pour accordéon, est écrite la même année que la séquenza 12 pour basson, le basson que nous avons pu entendre dans l'œuvre de Alessandra Bellino il y a quelques instants. Donc la séquenza numéro 13 pour accordéon se différencie totalement dans sa démarche de composition. À savoir que sa rencontre avec l'accordéoniste Theodor Anzelotti lui permet d'approcher l'accordéon par le versant soliste. Berio est alors confronté aux musiques populaires, immédiatement associées à l'instrument. De la mélodie accompagnant les voyages à la campagne, au chant de la classe ouvrière, des nightclubs, au tango argentin jusqu'au jazz. Berio reconnaît d'ailleurs, dans le jazz, un style qui fit évoluer considérablement l'accordéon à la fin du XXe siècle, sous l'impulsion du soliste et que vous connaissez tous, chers auditeurs, Richard Galliano. Alors s'est posé le problème de rendre hommage, un hommage commun, à toutes ces traditions de l'accordéon. Aussi, sous le titre de « chanson », est venu naturellement au compositeur. Une expression à prendre de manière spontanée, décrivant précisément le rapport qu'entretient Luciano Berio avec l'accordéon. En ce sens, la séquenza numéro 13 pour accordéon, intitulée « Chanson », est une succession de mélodies accompagnées dans une ambiance toujours feutrée, comme vous avez pu l'entendre, loin des trouvailles et des contrastes des autres séquenzes. Ici, l'accordéon, au départ polyphonique, devient multiple, à la fois issu de plusieurs traditions, mais entrant en cette fin de siècle dans une nouvelle tradition qu'il avait écartée tout au long du XXe siècle. La tradition de la musique moderne écrite. Voilà pour cette œuvre et les propos qu'on pouvait tenir autour de l'œuvre de Luciano Berio. Alors gardons, si vous voulez bien, chers auditeurs, encore cette ouverture. Cherchons à entrer en résonance, à accueillir ce qui ne vient pas de moi, mais d'ailleurs, en écoutant maintenant la rubrique de Gérard Bonnefond qui nous parle, lui, de la place de la musique au sein de la Grèce antique.
Sera réservée à la musique en Grèce antique en tant qu'activité sociale, culturelle, en tant que traitement de la folie, et nous évoquerons la fonction de l'infirmité. La mythologie grecque est la première entrée pour traiter du sujet. Alors il convient déjà de présenter les muses, garantes de la qualité de la parole poétique, du chant et de la musique. Dans sa Théogonie, Hésiode, Aède, qui vécut du 8e siècle au 7e siècle avant Jésus-Christ, présente la constellation des dieux de l'Olympe où règne Zeus. Évoquons les muses qui naquirent suite à la relation pendant 9 nuits consécutives entre Zeus et Mnémosyne, la déesse de la mémoire, qui accoucha de 9 filles au cœur uni, des tentrices dans leur poitrine, du chant et d'une âme ignorant la tristesse. Qui sont les 9 muses inspiratrices des Aèdes? Calliope symbolise la poésie épique, Erato la poésie lyrique, Euterpe la musique, Terpsichore la danse, Thalie la comédie, Polymnie la pantomime, Melpomène la tragédie, Clio l'histoire et Uranie l'astronomie. Dans tous les cas, chaque muse représente l'ensemble des muses. La muse inspire les aèdes qui sont à la fois des créateurs et des interprètes et qui chantent ou déclament des poèmes, des chants accompagnés de leur lyre, de leur pharynx ou de leur cithare. Sans la muse, pas d'aèdes, pas plus que de poésie et de musique. Et pour celui qui imprudent veut s'affranchir de leur tutelle, la sanction est impitoyable. Dans l'Iliade, Tamiris, la aède, qui ambitionnait de les surpasser, fut immédiatement puni. Les muses le démunirent de son chant divin et l'aède oublia la cithare. La toute-puissance des muses est repérable dans l'Odyssée, puisque l'aède, Démodocos, qui reçut de la muse le don de la poésie et du chant, fut privé de la vue. La cécité, voulue par la divinité, procure une aura extraordinaire, puisque l'aède, du fond de sa nuit, ressentirait plus que tout autre les émotions, les sentiments et les bruissements du monde. Les muses malmènent les sirènes qui avaient eu l'insolente ambition de rivaliser avec elles lors d'un concours de chant, entreprise insensée qui voit la victoire de leur musique céleste et purificatrice sur le chant voluptueux des sirènes. Les muses inspirent poèmes et musique aux aèdes et accordent un talent musical aux interprètes, les rhapsodes. Divinité, elles se placent en surplomb des mortels. Sur l'hélicon, au sommet, elles entreprennent leur danse, rond irrésistible, portée par leurs jambes graciles. Puis elles partent, disparaissent, drapées dans la brume, et s'acheminent nocturnes, chantant d'une voix merveilleuse. Maintenant, il est grand temps d'établir le rôle d'Apollon, fils de Zeus et de la déesse Lato, frère jumeau d'Artémis, déesse de la chasse. Dans ses représentations sculptées, dessinées, peintes, il est facilement repérable un arc et une flèche, une lyre, une couronne de laurier et l'himation, qui est un vêtement ample. Dieu de la musique et de la poésie, de la lumière, de la médecine, il est le protecteur des 9 muses. Dans sa 5e pythique, Pindare, poète, mentionne en 3 vers le traitement des maladies, puis l'importance de la musique. Lui, des pesantes maladies, les remèdes aux hommes et aux femmes prodigues, il octroya la cithare et donne la muse à qui lui plaît. Le dictionnaire de la mythologie gréco-romaine, Dan Colonia, précise à propos d'Apollon. On le surnomme Alexikakos, celui qui chasse les maux. Il détruit les monstres, il guérit les maladies, il envoie aux incurables une mort douce et rapide. Puis, dans le domaine musical, créateur d'harmonie, il joue de la lyre ou de la cithare pour accompagner le cœur des muses. Après avoir imaginé le premier de composer cantiques et hymnes, il institue des compétitions poétiques et musicales, comme les Jeux pythiques qu'il préside. L'Olympe, organisé autour de Zeus, avec les conflits, les jalousies, les fourberies entre les dieux, forme une entité mythologique qui contribue à structurer la société de la Grèce antique. Apollon, dieu des arts, et les muses influencent les Aèdes et les Rhapsodes, et ces derniers trouvent auprès de ces figures divines l'inspiration indispensable à l'exercice de leur art. La prochaine fois, je vous parlerai d'Homère, le célèbre Aède, auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. À bientôt.
Nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Et chers auditeurs, si vous avez envie d'ouvrir d'autres fenêtres et poursuivre cette rencontre avec la création musicale italienne, mais aussi française, je vous invite à venir partager le 4 mai prochain à 20h, salle Firmin Girard du foyer rural rue de la Verchère à Poncins, la création franco-italienne Specchio et le rayon ardent. La musique des compositeurs Philippe Forget et Alessandro Maggini. Un moment de musique partagé, surtout que l'entrée est libre et gratuite. Alors, profitez-en. Cette émission d'aujourd'hui a été réalisée et mise en onde avec la précieuse complicité de Simon de Borne. Et cette émission de résonance sera diffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous voulez, la présente émission en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Et bien voilà, que cette journée vous soit belle et douce, et surtout restez à l'écoute de Radio B.